franceinter.fr.
Imaginez un oasis de frêles pins, des fougères, des champignons, tout un minuscule écosystème entouré d'un océan de glace morne et hostile. Voilà à quoi ressemblaient peut-être les bordures du lac Miroir dans la vallée du Kéra il y a 20 000 ans. Axel, pour en parler, nous sommes au téléphone avec l'un des découvreurs, Christopher Carcaillet.
Bonjour Christopher Carcaillet.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire des écosystèmes. Comment est-ce qu'on fait pour remonter le temps comme ça pour décrire des paysages vieux de 20 000 ans ?
Mais en disant qu'on a plusieurs moyens d'explorer donc les archives que la nature nous fournit, et le moyen qui a été utilisé dans cette étude, dont il est question, a été d'explorer les sédiments du lac. Le lac, il y a de la boue au fond du lac. Mm-hmm. Cette boue est comme une archive, une bibliothèque pour les gens comme moi. Il faut avoir les techniques pour déchiffrer cette archive, et elle consiste, en l'occurrence pour cette étude, à quantifier donc les charbons de bois et les restes végétaux tels que des graines ou des feuilles, des aiguilles, qui se sont accumulés année après année, millénaire après millénaire, dans le sédiment. Et on utilise la méthode du carbone 14 pour affecter un âge ou donner un âge au sédiment.
À quoi ressemblait l'Europe, les Alpes en particulier, il y a 20, 30 ou 40 000 ans ?
Alors, il n'y a pas très longtemps encore, on imaginait qu'on avait une grande calotte glaciaire sur les Alpes. Il y a quelques 20 ou 30 ans, on imaginait ça. Aujourd'hui, on pense que ce sont donc des montagnes dans lesquelles les vallées étaient remplies par des glaciers, mais les sommets des montagnes sortaient. Donc, il faut imaginer, des grandes vallées remplies de glaciers jusqu'à une altitude de 2100, 2200 mètres d'altitude environ. Et puis, les sommets qui émergent. Et en l'occurrence, le fameux lac Miroir était sur une de ses pentes au-dessus des glaciers.
Et pourquoi vous êtes intéressé à ce lac du Kéra en particulier alors ?
À l'origine, c'était une toute autre histoire, donc on s'intéressait uniquement à l'histoire des feux en lien avec l'activité de l'homme et les changements climatiques au cours des derniers milliers d'années, hein, c'est 8-10 000 ans, c'est ce qui nous intéressait. Et en fait, la découverte, elle était assez, c'est de l'ordre du hasard. C'est en forant donc les sédiments, on est remonté très très loin, même jusqu'à 45 000 ans après datation. Sur le terrain, on ne savait pas encore qu'on avait aussi vieux, mais on voyait bien qu'on avait quelque chose d'assez exceptionnel et très vieux. Et la qualité du sédiment, au moins jusqu'à 21 000 ans, était d'une très grande qualité, très grande performance, qui nous permettait de réaliser une étude bien reconstruite de l'histoire des feux et de l'histoire de cette végétation composée essentiellement d'arbres. En tout cas, c'est ce que nous, on a reconstitué, ce sont les arbres.
Mais alors oui, comment il faut imaginer l'endroit ? C'est vraiment comme un oasis au milieu du désert, sauf qu'on remplace le sable par de la glace, c'est ça ?
Oui, je pense que l'idée de l'oasis au sein du désert, c'est une bonne idée. On est dans un désert de glace, avec des pentes désertiques, des sols qui gèlent et qui parfois dégèlent l'été sur les meilleures expositions. Et au bord de ce lac, qui devait être bien bien gelé l'hiver, parce qu'actuellement il est gelé, donc il y a 21 000 ans il devait être bien gelé, et il dégelait de temps en temps l'été, ou tous les étés, on ne sait pas. Et puis sur les pentes du lac, une sorte de petit plateau, eh bien, il y avait une petite végétation boisée, ou en tout cas avec une sorte de toundra avec quelques arbres. C'est ce qu'on peut imaginer, une sorte de toundra avec quelques arbres, des arbres qui ont traversé la glaciation et qui ont survécu aujourd'hui.
Et c'est vraiment grâce au dégel de l'été que ces arbres pouvaient tenir. Sans ça, ça ne marche pas.
Oui, forcément, les arbres, ils ont besoin d'avoir les racines plongées dans un sol qui est non dégelé, en tout cas l'été non dégelé, pour que les processus de nutrition, d'assimilation de l'eau, d'assimilation des éléments nutritifs tels que l'azote et d'autres éléments essentiels à la vie puissent se faire au niveau du sol. Et forcément aussi qu'il y ait d'autres organismes. Nous, on les reconstruit pas, mais on imagine qu'ils étaient présents, puisque forcément les arbres ont toujours des symbioses. Tous ces arbres qu'on a retrouvés ont tous des symbioses avec des champignons en l'occurrence.
Alors vous ne vous arrêtez pas seulement à la description de cette forêt ou de cette petite toundra. Vous parlez de feu. Ça, c'est encore plus impressionnant, non ?
Oui, alors ça a été effectivement la première découverte, c'était qu'il y a un refuge, mais on avait déjà un certain nombre de faisceaux de présomption qui nous laissaient penser que dans les Alpes, il devait y avoir quelque part des refuges d'arbres. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si haut. Mais là, le plus gros de la surprise était effectivement, c'est de voir que ces arbres ont survécu malgré l'occurrence rare, mais l'occurrence quand même, de feux, et que les arbres ont pu survivre, que les feux ont pu se propager dans un environnement glacé, et que les arbres ont pu survivre au feu, et qu'il y avait une interaction entre feu et végétation, qu'il y avait une interaction qui n'était pas due au hasard. En
tout cas. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces feux? Alors, on a des indices ou pas là-dessus?
Alors, les feux ne sont pas dus à l'homme à cette époque-là. La probabilité tend vers le nul, on ne peut pas exclure, mais en tout cas ça tend vers le nul. Autrement dit, on a très peu de chances que ce soit l'homme qui ait mis le feu, c'est le climat, notamment la foudre qui met le feu. Après, il faut des conditions de propagation du feu, parce que déclencher le feu c'est une chose, il faut qu'il ait des conditions, autrement dit il faut qu'il fasse ce soit sec, et l'environnement glaciaire est presque toujours sec, et l'autre condition c'est qu'il y ait du combustible. Mais par chance, les arbres étaient là, ils ont permis la propagation du feu de façon régulière. Quand je dis régulière, c'est quand même un feu, on a reconstruit un feu à peu près tous les 1000 ans, c'est l'ordre de grandeur. Alors qu'aujourd'hui, dans ce type d'écosystème, c'est plutôt un feu tous les 250 ans ou tous les 300 ans.
Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui sur Terre, on trouve des environnements qui ressemblent à celui-là, c'est-à-dire secs, froids et qui peuvent s'enflammer en cas de foudre?
Donc du feu au milieu de la glace,
oui.
Quoi, hein,
ouais.
Alors je dirais que au milieu de la glace, c'est plus compliqué. Mais au milieu dans un environnement de toundra, il y a encore 20 ans ou 30 ans, la plupart des gens auraient dit non. Sauf que depuis une quinzaine, 10, 15 ans, moins de 15 ans maintenant, on commence à observer de façon plus régulière, non pas dans les Alpes en haute altitude, mais dans les régions de toundra, en Alaska notamment, mais au nord de la Sibérie, dans des environnements où il y a des poches d'arbres, au milieu de la toundra, on commence à trouver des incendies, et des incendies qui sortent de la forêt et qui se propagent dans la toundra, avec des conséquences environnementales extrêmement importantes, ce qui fait que notre étude, qui est une découverte due au hasard à l'origine, résonne très très fortement par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui de ces feux, par rapport à ces feux dans la toundra qui ont des implications très très fortes par rapport au changement climatique, parce que qui dit feu de toundra dit grande émission de carbone par combustion de la tourbe qui est des sols organiques sur lesquels se propage le feu.
Christopher Carcaillé, à quoi ressemblent les bords du lac Miroir aujourd'hui?
Donc le lac Miroir est sur une sorte de petit plateau, sur un versant nord d'une montagne, mais un plateau qui n'est pas trop protégé du soleil, c'est-à-dire que l'été, il y a un ensoleillement qui est très fort sur ce plateau, ce qui a dû permettre il y a 21 000 ans, même jusqu'à la fin de la glaciation, qui s'achève définitivement il y a à peu près 11 000 ans, de réchauffer suffisamment le sol, le rayonnement solaire réchauffe suffisamment le sol pour permettre le dégel pendant l'été.
Merci beaucoup Christopher Carcaillé pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes écologue et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Il y a de moins en moins de vieux poissons dans l'océan et c'est plutôt mauvais signe. Voici un nouvel impact de la surpêche démontré sur 63 espèces différentes par des chercheurs américains. La pêche intensive en prélevant les poissons les plus vieux dans les bancs met en péril la survie de toute la communauté qui repose sur la mémoire de ces anciens pour migrer ou retrouver certains sites de nourrissage. Les chercheurs montrent que sur les 63 espèces étudiées, la proportion des individus les plus vieux dans les groupes ont baissé de 79 à 97% par rapport aux mesures historiques. Les chercheurs explique que cette coupe franche dans la durée de vie, appelée troncature, peut être stoppée rapidement en multipliant les zones refuges. Nous manquons cruellement de nouveaux antibiotiques, c'est ce dont s'inquiète l'Organisation mondiale pour la santé dans un rapport publié hier. Avec l'augmentation toujours croissante des phénomènes de résistance bactérienne, la recherche de nouveaux moyens de lutte doit être une priorité absolue. Pour guider la recherche et les investissements, l'organisation publie également une liste de 12 familles de superbactéries contre lesquelles il est urgent de développer de nouveaux traitements. La résistance aux antibiotiques cause aujourd'hui 700 000 décès par an dans le monde, dont 50 000 en Europe. Et puis les loups seraient capables de comprendre les relations de cause à effet fait mieux que leurs cousins domestiqués les chiens. C'est une étude autrichienne qui nous l'apprend. Les chercheurs ont réalisé des tests sur les deux espèces. Face à deux récipients, les canidés devaient trouver celui qui contenait de la nourriture. Pour les aider, différents types de signaux leur étaient envoyés. Et ce sont les loups qui se sont montrés les plus débrouillards et les plus rapides à la comprenette. Cette étude devrait permettre de mieux comprendre l'impact de la domestication des animaux sauvages et surtout la perte bien connue de capacité des animaux domestiqués face à leur alter ego sauvage. Un phénomène bien connu qu'on appelle le coût de la domestication.